Patrimoine et Finance, une émission animée par Frédéric Primo, banquier du patrimoine et de l'entreprise, animateur, formateur, maître de conférences auprès des professionnels de la banque.
Chers amis et chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique Patrimoine et Finance. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du viager, un marché de niche pour l'investisseur non professionnel, mais qui représente environ 6000 transactions par an en France. Alors, au regard de l'augmentation de l'espérance de vie, de la forte valorisation de certains actifs immobiliers, et pas seulement sur l'île de Ré, cette technique parfois mal perçue par le grand public a des atouts, et des limites bien sûr. Non, ce n'est pas non plus une façon de déshériter ses ayants droit, je vous rassure. Pour le viager libre, il s'agit d'un démembrement de la propriété. Le vendeur garde l'usufruit de son bien immobilier et transmet la nue propriété à l'acquéreur. Mais souvent, le vendeur ne bénéficie que d'un droit d'usage et d'habitation jusqu'à son décès. Alors, pour quelles raisons le propriétaire d'un bien immobilier voudrait le vendre tout en restant occupant? Eh bien, ces raisons et ces motivations sont nombreuses pour le viager. Il s'agit souvent d'une source de financement pour les seniors qui ont généralement plus de 70 ans. Le profil est souvent un veuf ou une veuve avec une faible retraite ou une pension de réversion insuffisante pour vivre. C'est donc un complément de revenus sans changer ses habitudes et son lieu de vie. Cela permet de percevoir bien souvent pour le vendeur, qu'on appelle crédit rentier, une somme immédiatement, le bouquet, pour répondre à un besoin précis, assumer des frais médicaux, réaliser un projet ou un rêve, aider ses enfants ou ses petits-enfants dans leur propre vie, ou simplement pour éponger un passif. Techniquement, cela est simple. Le vendeur doit évaluer la valeur réelle de son bien immobilier par un professionnel du secteur. Par principe, on applique un abattement d'occupation qui dépend de l'âge du vendeur, avec des tables de mortalité utilisées généralement par les assureurs. Par exemple, 50% si le vendeur a 70 ans, 40% s'il a 80 ans et 30% s'il a 90 ans. Le bon sens est que le bouquet sera plus important si le vendeur est âgé, sachant que son espérance de vie est proportionnellement moins élevée. Dans le secteur, les professionnels utilisent généralement le barème d'Aubry, ce qui permet d'éviter de léser le vendeur et l'acquéreur. Le vendeur perçoit donc une somme appelée un bouquet et une rente à vie dans environ 80% des cas. 80-90% d'ailleurs. Mais il est possible de ne négocier que cette rente, mais qui sera forcément plus élevée en cas d'absence de bouquet. Il n'y a pas de règle en la matière, mais seulement le fruit d'une négociation. L'usage constaté est que le bouquet représente environ 30% du prix du bien. La variable d'ajustement entre le montant du bouquet et le montant de la rente dépend surtout des objectifs et des projets du vendeur. À noter qu'il est possible d'indexer la rente sur un indice comme celui des prix à la consommation de l'INSEE ou de l'IRL, l'indice de référence des loyers bien connu dans le secteur de l'immobilier. Il existe de nombreuses opérations à caractère familial. Les vendeurs veulent aider un parent qui a besoin d'argent et qui souhaite rester dans son logement. Cela permet de conserver un bien dans le giron familial tout en aidant. Généralement, on constate que seule une rente est versée au crédit rentier. Les limites sont nombreuses, comme les requalifications pour donation déguisée ou des problématiques en cas de non-paiement de la rente par ses enfants. Et il est toujours compliqué d'assigner un membre de sa famille au tribunal. Côté acquéreur, il est indéniable que ce type de transaction présente des avantages et des risques. En premier lieu, il s'agit bien d'une spéculation sur l'espérance de vie du crédit rentier. À noter que l'opération sera annulée si le vendeur décédait dans les 20 premiers jours suivant la signature de l'acte de vente. Il est possible de faire financer le paiement du bouquet par son partenaire bancaire. Cela suggère que la capacité d'endettement de l'acquéreur sera diminuée par le remboursement du prêt pour ce même bouquet, mais aussi par le paiement de la rente au profit du crédit rentier. Concernant la garantie à apporter à la banque, elle repose souvent sur une hypothèque, sur un autre bien détenu par l'acquéreur. Si l'acquéreur venait à connaître des difficultés pour payer la rente, il faut savoir que bien souvent le crédit rentier demande dès l'acte de vente un privilège sur le bien à son profit, avec une clause résolutoire à exercer devant un tribunal. Cela lui permettrait de mettre ce bien aux enchères à son profit. La mesure n'est pas parfaite, car il n'est pas certain que le crédit rentier soit en mesure de le racheter. Mais le vendeur a aussi la possibilité de souscrire une assurance pour rente impayée. Néanmoins, la clause résolutoire permet souvent de casser la vente sans reversement des rentes par le crédit rentier. Fiscalement, l'opération ne sera pas neutre pour le crédit rentier qui sera imposé. En effet, le principe est qu'une fraction de la rente viagère, déterminée forfaitairement et une fois pour toutes en fonction de l'âge du vendeur, est considérée comme du revenu imposable. À noter que la fraction imposable sera bien évidemment soumise aussi aux prélèvements sociaux. Pour finir, il faut savoir qu'il existe un marché de la rente, de la revente des biens en viager pour les acquéreurs. Cela semble assez courant et les intermédiaires en la matière sont actifs. De plus, et ça c'est plutôt un phénomène assez récent, les fonds viagers ont aussi tendance à se développer. Les plus connus seraient Via Génération, qui semble être le leader, Coremimo et Certivia. Côté vendeur, cela permet de trouver une porte de sortie rapidement à un besoin, même si dans l'opération, on constate généralement l'absence de rente. Côté investisseur non professionnel, la souscription à ces fonds se fait via une assurance vie ou un plan d'épargne retraite, le fameux PERIN. Et cela permet de supprimer l'aléa lié à la longévité des vendeurs. En conclusion, il est préférable de faire appel à un professionnel du secteur ou à son notaire pour réaliser une opération équitable et de qualité, tant pour le vendeur que pour l'acquéreur. Cela évitera les requalifications par le fisc et les éventuelles contestations d'ayant droit pour un supposé abus de faiblesse. Chers auditeurs et chers investisseurs, je vous remercie de votre fidélité et j'espère vous avoir éclairé. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos antennes, en podcast ainsi que sur les réseaux sociaux. À bientôt et prenez soin de vous.
Patrimoine et finances, une émission animée par Frédéric Primo, banquier du patrimoine et de l'entreprise, animateur, formateur, maître de conférences auprès des professionnels de la banque.